Gibeon.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 3 mai 2024. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de la liberté et de la presse.
Vous estimez qu'un article vous crée préjudice, la moindre des choses, c'est de prendre contact d'abord avec le média et de dire au média que voilà, je repose ci ou ça.
Dans la partie magazine, un compte-rendu complet du rapport de Reporters sans frontières et des témoignages sur la presse au Cameroun et au Togo. Au Niger, des soldats russes ont été installés dans une base aérienne abritant également des troupes américaines. Au Burkina Faso, des manifestants demandant le départ des troupes américaines ont battu le pavé aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Les Tchadiens, eux, sont appelés aux urnes lundi pour élire leur président. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Co pour l'instant, le journal. Ce vendredi est journée mondiale de la liberté de la presse. On ne le dit pas souvent, mais plus de 70% des journalistes de 129 pays qui traitent des questions environnementales ont indiqué avoir été victimes de menaces, de pressions ou d'attaques. C'est l'UNESCO qui lance l'alerte dans une enquête révélée ce vendredi à l'occasion de cette journée consacrée à la liberté de la presse. Les précisions de John Lydon.
Dans son nouveau rapport « Presse et planète en danger », l'UNESCO indique avoir mené à marche une enquête auprès de 905 journalistes et que plus de 70% d'entre eux déclarent avoir été la cible d'attaques, de menaces ou de pressions en lien avec leur enquête sur les questions d'environnement. Parmi eux, 2 sur 5 disent avoir subi des violences physiques, d'autres ont fait l'objet de menaces ou de pressions psychologiques, de harcèlement en ligne, d'agressions physiques ou de menaces juridique. Résultat, près de 45% de journalistes disent s'auto-censurer par crainte de représailles. Les données montrent également que les femmes journalistes sont plus exposées que les hommes au harcèlement en ligne. L'UNESCO révèle également qu'au moins 749 journalistes et organes de presse traitant de questions environnementales ont été la cible de meurtres, de violences physiques, d'arrestations et de détentions au cours de la période 2009-2023 et qu'au moins 44 journalistes traitant des questions environnementales ont été tués depuis 2009 dans 15 pays.
La multiplication des poursuites judiciaires en Tunisie contre des journalistes et personnalités publiques depuis la publication d'un décret visant à combattre ce que le gouvernement considère comme de fausses informations est devenue une menace pour la liberté d'expression, encourageant l'autocensure, déplore des ONG et des professionnels des médias. Selon l'ONG américaine Human Rights Watch, le pouvoir tunisien utilise ce décret pour étouffer et intimider un large éventail de critiques. La liberté de la presse est en péril au Niger depuis le coup d'État militaire ayant renversé en juillet 2023 le président élu Mohamed Bazoum a affirmé aujourd'hui Amnesty International dans un communiqué. L'Organisation de défense des droits humains écrit que l'intimidation et l'arrestation de journalistes travaillant sur le conflit au Niger où sévissent des groupes djihadistes mettent la liberté de presse en péril. Le Niger a perdu 19 places, il est 80e dans le classement mondial 2024 de Reporters sans frontières, publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous reviendrons sur cette journée dans la partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des soldats russes sont installés dans une base aérienne au Niger, abritant également des troupes américaines après que Niamey a exigé le retrait du pays des forces américaines. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Les détails avec Nani Talani.
Le déploiement russe dans la base aérienne située dans la capitale Niamey place les soldats russes et américains dans une situation de proximité à un moment où Washington et Moscou sont en désaccord sur la guerre en Ukraine. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse jeudi, Lloyd Austin a indiqué que le déploiement russe ne posait pas de problème significatif en termes de protection des forces américaines. La base aérienne 101, où sont nos forces, est une base des forces aériennes nigériennes qui est située à côté de l'aéroport international dans la capitale. Les Russes sont dans un bâtiment séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements, a dit Lloyd Austin. Interrogé lors d'un point de presse à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a ni confirmé ni démenti la présence russe dans la base, indiquant simplement que Moscou développait ses relations avec les pays africains dans tous les domaines, y compris militaires. Des discussions entre les États-Unis et le Niger sont toujours en cours concernant les modalités du retrait des soldats américains exigés par Niamey.
Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Le point avec Michel Joseph.
Devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, qui était fermée, ces manifestants dénoncent la déclaration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni sur le rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exactions contre la population civile dans le nord du pays. Regroupés au sein de la coordination nationale des associations de villes citoyennes, les manifestants ont demandé aux États-Unis de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Burkina. Ils ont aussi demandé que les États-Unis clarifient leur position suite à la déclaration conjointe avec le Royaume-Uni et aussi vis-à-vis de l'orientation souveraine de la transition salvatrice avec à sa tête des autorités patriotes et une armée digne et professionnelle, a déclaré l'un des porte-parole lisant une lettre adressée au chargé d'affaires des États-Unis au Burkina. Sous un soleil de plomb, la manifestation n'a duré qu'une heure et elle a été encadrée par les forces de sécurité burkinabé, notamment la police nationale.
Une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est possible, a mis en garde aujourd'hui le président congolais Félix Tshisekedi dans un entretien au Figaro ce vendredi, alors que de violents combats opposent depuis des mois dans l'est de la RDC les forces gouvernementales aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon Kinshasa. Kigali dément son implication, mais la communauté internationale, dont la France et les États-Unis, estime que le Rwanda soutient le M23 et a engagé des forces dans l'est. Sur le terrain, au moins 9 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement ayant touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma, la grande ville de l'est de la RDC. L'origine des bombardements n'est pas clairement établie, mais le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a accusé sur ex l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 d'en être responsable. 8 militaires congolais, dont 5 officiers, ont été condamnés à mort pour lâcheté et fuite devant l'ennemi aujourd'hui par un tribunal militaire à Goma, dans l'est de la RDC, où la rébellion du M23 gagne du terrain. L'accusation avait requis la peine de mort contre les 11 militaires jugés dans la même affaire, mais le tribunal a acquitté 3 soldats du rang, considérant que les faits retenus contre eux étaient non établis. Au Tchad, l'élection présidentielle aura lieu lundi. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans pour succéder à son père, apparaît comme le grand favori de cette élection, indiquent les analystes. Le point avec Rosine Monizero.
Ce scrutin présente une configuration inédite dans ce pays d'Afrique centrale. Mahamat Déby, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, affronte le premier ministre qu'il a lui-même nommé le 1er janvier dernier, l'ex-opposant Succé Masra et 8 autres candidats. Le président de transition part favori selon les analystes. Estimant que les conditions de transparence ne sont pas réunies, certains groupes de l'opposition et de la société civile tchadienne appellent au boycott. Les inquiétudes concernant les droits de l'homme se sont accrues au Tchad depuis la prise de pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno en 2021. Il a d'abord promis une transition de 18 mois après la mort de son père, mais son gouvernement a ensuite adopté des résolutions qui ont reporté les élections et lui permettaient de se présenter à la présidence. Des manifestations contre la prolongation de la transition ont été violemment réprimées par les forces de sécurité, faisant une 50aine de morts selon les autorités, plus de 300 selon l'opposition.
L'opposant comorien Daoudou Abdallah Mohamed a passé la nuit en prison après avoir été placé en détention provisoire jeudi, accusé d'avoir mis en danger un policier et d'appeler à la contestation de la présidentielle de janvier. Les faits retenus à son encontre sont ridicules et leur qualification digne de celle régulièrement retenue sur les républiques bananières, a réagi son avocat Saïd Larifou, l'ex-puissant ministre de l'Intérieur du président Azali Assoumani, aujourd'hui âgé de 50 ans, avait contesté la réélection de M. Azali dès le premier tour, qui avait provoqué des heurts dans l'archipel de l'océan Indien. Le président kenyan William Ruto a placé aujourd'hui en état d'alerte son pays ravagé par les inondations et a reporté la réouverture des écoles. Alors que la population se prépare à l'arrivée du tout premier cyclone de son histoire, au moins 210 personnes sont mortes en raison de graves conditions météorologiques, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Et l'association de défense des droits de l'homme, Asylum Head, a déclaré aujourd'hui avoir lancé un recours en justice contre la politique du gouvernement britannique consistant à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. L'organisation a déclaré que le document d'orientation du gouvernement n'était pas conforme à la nouvelle loi adoptée par le Parlement. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Tchad, les activités du projet À la page, améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes, ont été lancées à Doba. À la page prévoit la construction de centres de formation, collèges et cantines scolaires dans les provinces du Logone oriental, Mandoul, Wadai et Wadi Fira. Ce projet d'une durée de 4 ans bénéficie d'un financement de 27,9 milliards de francs CFA, de l'AFD et de l'Union européenne. Au Mali, la récolte de céréales devrait atteindre plus de 11 millions de tonnes en 2024-2025, soit une hausse de 1,2 million de tonnes par rapport à la campagne précédente, selon le gouvernement, soulignant que cela dépend évidemment de la bonne répartition des précipitations au cours de la saison. Le kilo de semences de maïs hybride sera cédé aux agriculteurs à 1500 francs CFA. En Égypte, l'Autorité nationale de régulation des télécommunications a infligé plus de 687 000 dollars d'amende à 4 opérateurs de téléphonie mobile au cours du premier trimestre 2024 pour avoir enfreint les paramètres de qualité de service. Depuis 2021, la NTRA a doublé le montant des amendes afin d'inciter les opérateurs télécoms à investir davantage pour améliorer la couverture de leur réseau et la qualité des services fournis ni aux consommateurs.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
En Afrique du Sud, les Mamelodi Sundowns remportent leur 7e titre consécutif en première division en battant les Kaizer Chiefs.
Les Mamelodi Sundowns ont écrasé leurs adversaires, les Kaizer Chiefs, 5-1 hier soir au stade FNB, First National Bank Stadium, situé à Nasrec, en bordure de la région de Soweto, à Johannesburg. Cette victoire leur a remporté du coup le 7e titre en première division sud-africaine, également appelé Premiership. Notons que les Chiefs ont été réduits à 10 vers la 19e minute, lorsque la faute professionnelle de Given Musimango sur Ribeiro Costa a entraîné un carton rouge. Ils ont pu marquer leur unique but grâce au pénalty de Ndunduzi Tchabalala à la 85e minute, mais hélas, ce n'était qu'une consolation puisque les Mamelodi Sundowns ont scellé leur victoire.
En cyclisme, la dernière étape du Tour du Bénin se court ce vendredi avant l'arrivée finale prévue pour demain samedi.
Cette étape se court entre Wini et Porto Novo, longue de 97,170 km. C'est la plus petite distance du Tour. Hier, Victor Lebon, un Français de la team Bonners, s'est imposé à Atiémé après 113,800 km de course au départ de Dida. Il a franchi la ligne d'arrivée au sprint devant l'Algérien Islam Mansouri et le Burkinabé Wabou Bouda. L'Érythréen Yoel Habtiab garde le maillot jaune à 2 secondes de l'Algérien Azedine Lagab. L'arrivée finale est prévue pour demain samedi à Cotonou.
Ici aux États-Unis, le président de la FIFA, Gianni Infantino, vient de rencontrer des membres de la Chambre des représentants pour présenter les projets des tournois de la FIFA qu'organiseront les États-Unis en 2025 et 2026.
Le chef de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré plusieurs membres clés de la Chambre des représentants du gouvernement fédéral américain à Washington, D.C., les responsables du football et les représentants des villes hôtes pour discuter de la planification de 2 tournois majeurs de la FIFA qui se dérouleront aux États-Unis, notamment la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes à l'été 2025, suivie par la plus grande Coupe du Monde en 2026, également organisée conjointement par le Canada et le Mexique, mettant en vedette 48 équipes nationales. Les échanges ont porté sur un large éventail de sujets dont le transport, la sûreté et la sécurité, les visas, ainsi que d'autres aspects opérationnels et commerciaux.
Page d'espoir, VOA Afrique, signé Nani Talan.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Sur les 5 critères utilisés par Reporters sans frontières pour établir son classement mondial de la liberté de presse 2024, l'indicateur politique a été le plus problématique, montrant que les gouvernements ne protègent pas les journalistes. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, se penche sur le classement en Afrique où les acteurs politiques ont agi violemment à l'égard des journalistes. Le récit est de Rosine Monizero.
Dans de nombreuses régions d'Afrique, le journalisme a souffert pendant les élections. C'est ce que révèle l'organisation Reporters sans frontières. Sadibou Marong est le chef du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne, basé à Dakar, au Sénégal.
Nous avons vu par exemple à Madagascar que pendant la période électorale, près de 10 journalistes ont été soit agressés, soit persécutés, soit même arrêtés. Nous avons également observé les mêmes tendances pendant la période électorale au Nigeria, où près de 20 journalistes et reporters ont été attaqués, persécutés et harcelés pendant les élections.
Sadibou Marong explique qu'il a par ailleurs observé que dans certains endroits, les politiciens ont créé leurs propres médias pour imposer leurs propres récits. Des restrictions à l'accès à l'information ont été constatées dans la région du Sahel. Le Niger a perdu 19 places pour se retrouver à la 80e place. Le Burkina Faso a chuté de 28 places pour se retrouver à la 86e place. Et le Mali, pays voisin, est à la 114e place. Ces trois pays sont dirigés par des juntes militaires. Écoutons encore Sadibou Marong.
Au Burkina Faso, il n'y a plus de médias internationaux, il n'y a plus de reporters internationaux ou de correspondants internationaux. C'est aussi le cas au Mali et c'est aussi le cas dans le dernier pays de la junte, c'est-à-dire le Niger.
La semaine dernière, le Burkina Faso a suspendu plusieurs médias occidentaux et africains en raison de leur couverture d'un rapport de Human Rights Watch faisant état de meurtres de civils commis au début de l'année par l'armée du pays. Le département d'État américain se dit très alarmé par cette action. Vedan Patel, porte-parole du département d'État.
Beaucoup trop de gouvernements ont recours à la répression pour faire taire la liberté d'expression, en particulier à l'encontre des journalistes et des organisations de médias qui font simplement leur travail.
En Afrique de l'Est, l'Érythrée occupe la dernière place en classement en étant 180e. Le gouvernement de ce pays, l'un des plus censurés au monde, a fermé tous les médias indépendants depuis plus de 20 ans, selon Freedom House. À la fin de l'année 2023, le Comité pour la protection des journalistes avait fait état de 16 reporters toujours derrière les barreaux en Érythrée. Victor Bouilé, directeur de la formation et du développement des médias au Conseil des médias du Kenya, se félicite de ce qu'il appelle un espace médiatique dynamique dans certains pays.
L'Ouganda compte 300 stations de radio, la Tanzanie plus de 300 stations de radio, le Kenya 290 stations de radio. Cela signifie que nous parlons d'un espace médiatique très étendu.
Quelques pays sont sur une trajectoire positive, notamment la Mauritanie, où les abus contre les journalistes ont diminué, ce qui a permis à ce pays de gagner 53 places en moins d'un an et de se classer au premier rang en Afrique. La Tanzanie a également gagné 46 places.
Au Togo, la liberté de presse a progressé de 21 points en 2023 par rapport à la 100e place que le pays occupait une année auparavant. Si cette embellie a été saluée par tous les acteurs du secteur des médias, elle cache bien les nombreuses difficultés auxquelles ils font face et qui les empêchent de se développer. De Lomé, la correspondance de Kossi Oussou.
Dans son bureau, au siège du groupe de presse Togo Matin, Dieudonné Korolakina, le directeur de publication, s'affaire pour la parution de son quotidien. Cela faisait déjà quelques mois qu'il s'est résolu, à son corps défendant, à réduire la parution physique du journal.
Déjà, le fait de se reconnaître quotidien et obligé de paraître 3 fois au lieu de 5 fois, c'est vous dire combien c'est très très difficile parce que il y a à la fois le coût des intrants, le coût de l'impression. Vous n'avez pas autant de rentrées en termes de publicité, en termes de quelques réclames qui viennent à publier. Donc, le contexte n'est pas aisé pour nous.
Ajoutez à cela la mévente, la faible implication des mécènes. Estelle Koudjonou, la directrice de publication de Gazelle Info, ne veut pas pour autant abandonner.
Nous opérons à la limite de la magie pour pouvoir tenir. Nous portons le titre de journaliste. Nous nous devons de satisfaire nos lecteurs, nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Du coup, en absence de financement, en absence de partenaires, tu es obligé d'exercer d'autres activités pour soutenir en fait ton entreprise de presse.
Pas si simple d'être promoteur de médias et s'en sortir au Togo où plus d'une centaine de titres, de sites d'information, de radio et télévision se partagent un marché restreint de publicité. Les contraintes du passage à une formalisation en société de presse depuis l'année dernière compliquent davantage la situation des médias. Aimé Ekwe, le directeur de la maison de la presse, demande au gouvernement d'aider le secteur.
Quand on arrive à une société de presse, naturellement, c'est que vous êtes imposable, ce qui ne se faisait pas avant. L'idée, c'est de négocier avec le gouvernement par rapport à la spécificité de la presse. Tant que nous allons payer comme les autres sociétés, ça fait difficile à faire. Il faut que la presse puisse avoir un taux forfaitaire à payer et faire en sorte que la taxation puisse prendre en compte la spécificité du domaine.
Pour le moment, le gouvernement n'appuie la presse privée togolaise qu'avec 150 millions de francs CFA, une enveloppe jugée dérisoire par les organisations de presse du pays. Fabrice Pétiesi est le président de l'Observatoire des médias du Togo.
Entre-temps, les choses ont évolué au niveau du Code de la presse et de la communication qui a été voté en 2020. Il y a quand même des idées pour passer de la subvention à un fonds d'aide à la presse. Mais pour l'instant, ça reste au niveau des tests, ce n'est pas encore entré en application. Et je crois qu'au niveau de ce fonds d'aide, l'État trouvera l'occasion quand même de revoir sa cagnotte pour permettre à la presse qui tire le diable par la queue de pouvoir au moins pointer le bout du nez.
À l'occasion de la célébration de la journée de la presse, l'Observatoire togolais a appelé le gouvernement à se pencher sérieusement sur le cas de la presse togolaise qui se meurt lentement mais sérieusement. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Les professionnels des médias au Cameroun sont encore marqués par le récent assassinat du journaliste Martinez Zogo. Certes, le procès est en cours sur cette affaire, mais dans le monde de la presse, cet assassinat est un signe d'une grave menace dans la pratique du métier au Cameroun. Les professionnels des médias évoquent également d'autres problèmes tels que la santé économique des entreprises de presse qui sont sous-subventionnées. Davantage avec Emmanuel Julinta.
Le journaliste Abou Outo s'est vu décerner en 2023 le prix Martinez Zogo pour son courage et son professionnalisme dans le traitement des sujets complexes sur l'économie, la finance et le développement. Mais depuis quelques mois, son article sur l'autorisation d'exercice de l'Uber russe Yango dans le secteur des transports au Cameroun lui vaut un certain acharnement. Abou Outo, journaliste à investir au Cameroun.
Lorsque vous estimez qu'un article vous créer préjudice, la moindre des choses, c'est de prendre contact d'abord avec le média et de dire au média que voilà, je repose ci ou ça à votre article, j'ai un droit de réponse à vous envoyer. Ça n'a pas été fait, je me suis retrouvé directement devant la police.
L'organe régulateur des médias a pourtant estimé que l'article en question a respecté les règles de l'art, mais le plaignant poursuit toujours le journaliste en justice. Abou Outo, journaliste à investir au Cameroun.
C'est quand les procédures se multiplient que je commence quand même à m'interroger sur la finalité et l'objectif qui est derrière la démarche de ce monsieur.
D'autres hommes de médias, comme Martinez Zogo, journaliste à la radio Amplitude FM à Yaoundé, ont trouvé la mort à la suite de certaines dénonciations sur des sujets sensibles. Thierry Valère, animateur à Amplitude FM.
On fait le boulot, pas pour taquiner les gens, pas pour déranger les gens, mais pour attirer l'attention de ceux qui nous dirigent afin de trouver des solutions à ces différents maux qui minent la société.
La presse au Cameroun se meurt aussi sur le plan économique. Ce responsable d'un quotidien estime ses dépenses annuelles à plus de 30 millions de francs CFA. L'appui du gouvernement à la presse privée paraît dérisoire à ses yeux. Jules-Bruce Gaba, directeur de publication.
Nous vivons des abonnements pour le peu que nous pouvons en disposer. Nous vivons des petits dons, c'est là. Mais vous comprendrez qu'avec ce fonctionnement, on ne peut pas bâtir une structure solide à même d'être appelée entreprise de presse. En 2023, nous étions à 1,2 million. Alors, 1,2 million, ça fait à peine les dépenses de deux semaines.
Selon Reporters sans frontières, le Cameroun est classé cette année 130e pays en matière de la liberté de la presse et 4 journalistes sont en détention. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication.
Grâce à ces avancées au plan juridique et institutionnel, notre pays connaît à ce jour un pluralisme médiatique plus qu'appréciable et une liberté de ton dans les médias, sans autre entrave que celle dictée par les règles professionnelles en la matière.
Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, la campagne électorale pour l'élection présidentielle prend fin officiellement ce samedi 4 mai, mais la décision du président de l'Agence nationale de gestion des élections d'interdire aux représentants des candidats en liste de photographier les résultats dans les bureaux de vote crée de la polémique. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Le président de l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad, Ahmed Bartiré, met en garde certains candidats qui ont demandé à leurs militants de surveiller leur vote. Au besoin, ils photographient les résultats après dépouillement et envoyés au QG de leur formation politique. Pour Dr. Sitak Yombatina Beni, membre du parti Les Transformateurs, la sortie du président de l'ANG est hasardeuse.
En droit, il n'y a pas de sanction tant qu'il n'y a pas une infraction. Et donc, il n'y a pas d'infraction en matière de filmage, il n'y a aucun article dans la loi électorale. Et donc, c'est une sortie inopportune. Au contraire, la loi électorale est claire. Après le vote, le dépouillement est public. En Suisse, le président n'est pas du bureau. Le vote lit à haute voix les résultats. Ça veut dire que les délégués doivent même recevoir, même en principe, même une copie. Donc, si l'ange n'a rien à reprocher, je ne sais pas pourquoi elle doit être sortie.
Ahmed Bartiré a déclaré sur la chaîne nationale que cette décision a été prise pour éviter de donner les résultats fantaisistes à travers les réseaux sociaux.
Il n'y a que l'ange et l'ange seul qui est habilité à donner les résultats provisoires des élections. Aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les chiffres au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ces gens qui veulent le faire, s'ils s'hasardent à le faire, ils auront affaire à la loi.
Pour Christian Baïdessou, expert tchadien en question électorale, l'interdiction de photographier les procès verbaux des résultats prescrits par l'Agence nationale de gestion des élections est justement sans fondement juridique.
Même si le code électoral est muet sur la question, le manuel des membres des bureaux de vote élaboré par les soins de l'ANGE prescrit bien l'affichage des résultats à l'issue du processus de dépouillement. Une fois affichés, les résultats tombent dans le domaine public et peuvent donc être repris aussi bien par les électeurs que par les délégués des candidats. Les candidats qui en ont les moyens peuvent donc mettre en place un dispositif de collecte des résultats affichés devant les 26 611 bureaux de vote pour se faire une idée des voix qu'ils ont obtenues.
Pour Armand Diegolta, représentant du candidat Mohamed Idriss Déby Itno, la question de photographier les procès-verbaux est une fixation pour rien.
Si dans le bureau de vote, le procès-verbal est élus, les représentants ont signé, ce n'est pas en filmant qu'on fait de la crédibilité ou de la transparence. Et en plus de ça, le PV filmé et mis sur le net ne sert pas de preuve du tout en droit.
Les chefs traditionnels expriment leur inquiétude et lancent un appel à l'apaisement. Tamita Djidingar, membre de la coalition nationale des autorités morales pour la médiation.
Il faudrait que le vote se fasse en tenant compte de la conscience de chaque individu. Essayer par la suite de gérer les opérations électorales dans des des conditions acceptables. Et une fois qu'on aura fait tout cela, nous pensons que véritablement les résultats qui pourront être obtenus ne pourront pas être contestés.
La campagne se clôture alors qu'aucun des 10 candidats n'a battu campagne dans le Borku Enedi Tibesti, dans l'extrême nord du Tchad. André Kodouma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.